Sécure, épisode spécial. Je suis avec Vincent.
Salut!
Ça va bien?
Ben oui, ça va.
Ça va, bon, c'est ce qui est merveilleux. On va conclure l'année 2022 en parlant du droit de la déconnexion, ce qui est un projet qui a été avancé par QS au Québec, qui est déjà discuté à travers le monde aussi d'ailleurs, qui est, à mon sens, très important d'aborder parce que je pense que le confinement et la pandémie nous a amenés dans un contexte où pendant deux ans et demi, les gens ont un peu, ou les employeurs, malheureusement exagéré, où les gens ont perdu un peu le contrôle de leur horaire, leur travail, et ainsi de suite. Fait que je pense que c'est un très bon moment d'aborder cette question-là et justement de voir ce qui est proposé et comment nous, on se positionne par rapport à ce genre de choses-là.
Écoute, dans les circonstances, moi, je pensais vraiment là, que le droit de la déconnexion, ça fait plusieurs mois qu'on entend parler. Je pensais vraiment qu'il y avait un élément législatif qui encadrait cette mesure-là. Mais finalement, je lisais un article la semaine dernière. C'est un défi que le gouvernement de Québec solidaire a lancé, justement, notre gouvernement Legault. C'est de moderniser, en fait, la loi sur les normes du travail pour, justement, encadrer le droit à la déconnexion. On a comment je dirais ça? Vos employeurs ont des politiques à l'interne, j'en suis convaincu, mais c'est fait un petit peu n'importe comment. Je dirais n'importe comment, c'est pas vrai. C'est que effectivement, ça prendrait peut-être une loi ou une réglementation plus standard, facilement applicable, peu importe le corps de travail. Là, je comprends que certains employeurs, eux autres, ont mis certaines mesures en place, effectivement, mais ça n'a pas force, justement, de loi ou de représailles. L'employeur pourrait tout simplement décider que, dans certaines circonstances, vous devriez rester connecté. C'est un petit peu ça ici. Le défi qui est lancé par Québec solidaire, c'est de dire non, c'est un droit des travailleurs. Faudra l'encadrer tout simplement. Je lisais aussi dans l'article, l'Ontario, le Parlement ontarien a commencé justement à créer ses assises pour encadrer justement le droit à la déconnexion. Lorsqu'il y a des pays européens, notamment il y a l'Espagne, il y a la Belgique entre autres, eux autres se sont vraiment penchés sur cette question-là. Et puis, ils ont déjà des éléments là, qui encadrent cet élément de droit des travailleurs.
Ben c'est logique. De toute façon, c'est dans le droit du travail, c'est la base, c'est de protéger les employés contre certains employeurs qui ont tendance à un peu à exagérer sur la pression, sur ce qu'ils demandent de leurs employés. Donc, on est toujours dans une question d'équilibre. Personnellement, je trouve ça malheureux que le législateur doit se pencher sur ce genre de questions-là. Ils doivent modérer les ardeurs des humains, parce que pour moi, tout ça me semble logique. Personnellement, je suis un très grand travailleur, mais je n'exige pas ça des gens autour de moi. C'est un choix qui m'est propre, un choix qui est personnel. Donc, d'aller jusqu'à imposer, justement, gâcher le temps des fêtes, parce qu'on est justement dans cette période-là, à des employés, justement, parce qu'on a des attentes démesurées. Je trouve ça que, dans le fond, dans l'absolu nécessaire qu'on doive légiférer. Je sais que l'Europe sont beaucoup plus en avance sur ce qu'on peut penser, justement, parce que correctement protéger des abus qui ont été faits. C'est un peu étonnant en même temps parce qu'on est déjà très bien protégés par rapport à ce qu'on pourrait avoir par rapport à ici. Mais je trouve ça important que cette conversation-là puisse avoir lieu au Québec justement pour qu'on puisse modérer les employeurs qui sont moins matures sur la gestion de leurs employés justement, qui ne sont pas capables d'avoir une saine distance par rapport à ce que la contribution, puis de fond que les employeurs ont besoin de se ressourcer pour justement donner un peu plus de valeur à leur travail et à leur entreprise par la suite. Là.
Puis dans le domaine des assurances puis des institutions financières, un domaine où je œuvre depuis plusieurs années, il a été démontré que le télétravail, notamment au niveau de la productivité, il y a vraiment eu une augmentation de la productivité. Nicolas l'a mentionné. Un employé, même si son contrat prévoit 35 ou 40 heures semaine, veut en faire plus, prendre de l'avance, libre à lui, bien entendu. Ce qu'on veut, par contre, c'est pas encadrer l'employé, c'est vraiment encadrer l'employeur dans les différentes manœuvres ou les petites voies de contournement qu'il pourra employer pour justement, on va dire légèrement, abuser du temps précieux de ses employés. Toutefois, Nicolas l'a dit, puis lui, il le fait parce que je le sais, puis moi aussi, je le fais parce que je vais vous le dire. Ça va, ça m'arrive, moi, le dimanche, de préparer ma semaine là, qui s'en vient, là. Tout ce qui est ma gestion de correspondance, etc. C'est du temps que je vais déclarer, mais c'est du temps pour lequel je ne serai pas payé, mais au moins, ça me permet d'avoir une saine planification, bien prioriser, puis voir mes différents enjeux que je dois régler cette semaine-là. Mais d'un autre côté, ce n'est pas mon employeur qui m'appelle ou qui me l'exige. C'est vraiment cette pratique-là là, qu'on veut encadrer puis corriger.
Oui, mais c'est vraiment de ramener dans les mains de l'employé ce choix-là, est-ce qu'il soit capable de le faire. S'il veut le faire, en certains moments, il peut le faire. S'il ne veut pas le faire dans d'autres, il peut le faire. Fait que c'est vraiment d'encadrer ça, justement, que l'employeur ne puisse pas abuser de cette liberté-là que certaines personnes prennent ou que ce genre de choses-là. J'en viens, je trouve ça malheureux qu'on doive aller jusqu'à des encadrements législatifs parce que certains appétits ou certaines personnes n'ont pas ces mesures-là. Puis même à certains égards, là, si on parle d'employeurs, mais les employeurs sont faits de gens. Et dans ces genres-là, puis toi et moi, on l'a constaté, tu as des gens bienveillants, justement, qui vont respecter naturellement ce genre de choses-là. Et tu as des gens qui ne sont pas bienveillants et qui sont plus centrés sur leur propre petite personne et qui, à ce moment-là, n'ont pas la capacité de voir ou la capacité de s'arrêter pour ne pas nuire aux vues personnelles des autres et justement d'amener les contributeurs. Parce qu'on est dans le fond, c'est des équipes. Leurs contributeurs dans leur équipe à travailler de façon saine et de façon reposée, justement, quand des fois, ils ont besoin de certaines zones de repos. Puis justement, on en parlait en off aussi, puis j'ai un de mes amis qui veut relater ça. Lui s'est retrouvé dans un contexte dans son emploi. On lui a reproché de faire que ses équipes arrivent à Noël pas la langue à terre. Ce qui, dans tous les cas, normal, on ne devrait pas arriver à la langue à terre à Noël. Même si je travaille beaucoup, je n'arrive pas la langue à terre à Noël. Je suis reposé, mais je ne suis pas complètement dévasté puis épuisé. Donc, il faut quand même. T'sais, dans l'absolu, c'est juste une job.
Tu sais, l'autre élément, il y a certains employeurs qui repensent à diminuer justement le télétravail pour le retour au bureau. Il ne faut pas oublier qu'il y a des bâtiments qui sont loués, il y a des bâtiments qui sont achetés, il y a des bâtiments qu'on ne peut pas relouer ou des locaux, etc. Un bâtiment vide, ça coûte cher pour un employeur. Fait que on comprend que il y a certains employeurs qui cherchent justement à avoir des modes, certains modes hybrides, d'autres une plus grande présence au bureau. Je mentionnais juste avant le commentaire de Nicolas, dans le domaine des institutions financières, des assurances, il y a eu un très, très gros gain en productivité. Pensez qu'avec le retour en présentiel, ce gain-là risque de diminuer. On parlait d'employeurs qui seraient plutôt malveillants vers leurs employés pour arriver la langue à terre. Je dirais peut-être un autre mot ici. Des employeurs, pour les deux dernières années, qui se sont habitués à des plus gros profits, à devenir peut-être trop gourmands, à revoir le naturel, autrement dit, la marge de profit plus standard en présence, devenir une forme d'obstacle puis recommencer à abuser justement de leurs employés. Il faudrait éviter ce petit élément-là. Là.
Ben, entre autres, puis c'est parce qu'il faut se rappeler qu'on n'est pas des machines, on est des humains et on a des moments forts, des moments moins forts. Il faut prendre ça en considération dans tout ce que c'est et dans comment on fait ça. Le télétravail justement a permis de démontrer un certain nombre de choses. Malheureusement, un certain nombre de personnes ont un désir peut-être un peu trop fort de retourner comme c'était avant. On n'est plus avant. On a avancé, ça a changé. Fait qu'il faut arrêter un peu cette quête-là de nostalgie à comment c'était mieux avant. Non, c'était pas mieux avant, c'était différent. Faut juste accepter le même temps que tout a changé, que la réalité a changé. Est-ce que c'est parfait? Sûrement pas. Est-ce qu'on a encore à évoluer? Sûrement. Est-ce que le modèle hybride va avoir à se raffiner? Assurément qu'on a de ce genre de choses-là. Mais il demeure que ces modèles de flexibilité-là, puis on parlait justement de ne pas abuser justement le droit à la déconnexion, de ne pas abuser justement du temps, mais de donner la capacité aux employés de pouvoir travailler au moment où ils sont le plus productifs, alignés avec les besoins de l'entreprise, puis ces genres de choses-là. Puis justement, d'arriver dans un monde où on est capable d'être équitable à ce genre de choses-là, puis d'arriver à des éléments supérieurs, puis dans le fond, d'être capable de moduler le travail à la capacité et au goût de chacun qui veut contribuer, parce que dans le fond, dans l'absolu, c'est des gens qui contribuent à notre business et qui aident à celle-ci à progresser. Ce n'est pas genre des rouages dans une grande chose. Fait que ces contributeurs-là doivent être pris en considération et les amener justement dans une zone confortable, justement de confort. Et le télétravail fait partie de ça. Le télétravail ne veut pas dire que je vais travailler pendant que je fais ma vaisselle, ne veut pas dire que je vais travailler pendant que je fais le souper. Ça veut dire que mon heure où je fais mes repas et ces choses-là peuvent être plus souples, mais je donne toujours une prestation qui apporte de la valeur à l'entreprise. Il faut revenir à ce genre de choses-là. Puis ça aussi, c'est un élément difficile. On ne fait pas des heures, on apporte de la valeur à notre employeur. Puis peut-être certains gestionnaires ont de la misère à comprendre cette notion de j'apporte de la valeur versus j'apporte juste mon temps assis sur une chaise.
Non, non, c'est bon ce que tu dis là, effectivement. Puis tu sais, on va revenir à base là. Le droit à la déconnexion, j'avais pris l'habitude chez mon employeur précédent. Quand je quittais le bureau, jamais j'apportais mon portable. Ça voulait dire que t'as beau essayer de me rejoindre, moi, c'est terminé. Là. Puis le vendredi, ça restait au bureau tout simplement pour tout le week-end comme un paquet de travailleurs. Malgré l'installation de certains outils sur le cellulaire, soit personnel ou le cellulaire fourni, bon, etc., c'est l'équivalent justement de repartir juste avec son sac à lunch, prendre l'autobus, prendre le métro, prendre l'auto, retourner à la maison, puis avoir aucun outil pour travailler. Là, la différence, c'est que l'outil est dans une pièce de ma maison. Puis comme employé, il faut que je me discipline également, mais ça prend quelque chose pour discipliner également l'employeur.
Oui, c'est ça. Puis c'est peut-être une source d'aide pour les employés qui ont un peu plus de difficultés à refuser ou à dire non à leur employeur. Je pense que nous, dans notre cas, on est rendu à un niveau de maturité professionnelle qui nous permet, nous donne cette capacité-là à plus facilement repousser les exagérations de nos employeurs. Mais pour la plupart des gens, c'est peut-être pas aussi facile que ça. Puis tu sais, je me rappelle du début de pandémie où, tu sais, dans le fond, chez mon client principal à ce moment-là, c'était Teams qui avait été déployé pour mis ça. Probablement pour la plupart des gens qui nous écoutent ou des situations similaires de toute façon. En mars 2020 ou avril 2020, les gens étaient connectés sur Teams 20 heures sur 24. On voyait les passés de disponibilité. Puis c'était fou à quel point les gens étaient disponibles à des heures complètement folles. Puis ça a duré jusqu'en 2021, où les gens exagéraient spontanément de tous ces genres de choses. Puis je voyais régulièrement mon team, c'était pas mieux, j'ai pas mieux que les autres. Il était ouvert genre 24 sur 24, puis je travaillais des heures qui n'avaient pas de sens. Mais cela étant dit, je voyais quand même tous mes collaborateurs de chez ce client-là qui, eux aussi, faisaient ce genre de choses-là. Puis je ne suis pas convaincu qu'eux autres étaient dans un modèle de vie dans lequel ils étaient bien dans ce chose-là. Puis là, si on avance, on est fin 2022, là, on close l'année. L'épisode-là va closer l'année. Je regarde mon Teams maintenant, quand je l'ouvre à 11h le soir, soit j'ai du monde offline, soit j'ai du monde away, soit j'ai du monde qui sont littéralement en mauve dans Teams, qui sont out of office, là, quelque chose. Fait que là, les gens ont vraiment changé leur modèle de mise en disponibilité qui était complètement différent de ce qu'on a vu au début du confinement où c'était comme l'asile, parce que je pense que les gens aussi ne savaient pas quoi faire de leur peau. Parce que quand tu es pris chez vous, tu ne sais pas quoi faire, là, tu perds le contrôle, puis ça donne lieu à ce genre de situation-là. Puis c'est peut-être justement un bel exercice de revenir à quelque chose de plus normal, de plus humain, et justement de se donner l'espace pour respirer, puis l'espace pour justement être créatif. Parce que si on n'a pas d'espace, on ne peut pas être créatif. Puis je disais, même si ma job en sécurité, ce n'est pas nécessairement de la création pure et dure, il faut quand même que je laisse les idées fermenter dans ma tête pour donner un produit intéressant. Puis si je ne laisse pas fermenter ces idées-là à ne rien faire, je suis moins productif, moins capable d'apporter des idées novatrices pour aider mes clients à avancer, aider les gens à résoudre des problèmes nouveaux. Parce que justement, je suis juste comme sec, puis j'ai pas assez fermenté.
Je sais pas si vous connaissez, je sais pas si toi, Nicolas, tu connais ça. J'ai découvert Microsoft My Analytics, qui donne un petit bilan une fois de temps en temps. Puis faites attention, tombez pas dans ce piège-là, parce que c'est un tableau de bord, hein? C'est des logs que ça récupère.
C'est rendu Viva Insight, je pense, ouais. Ou ça a changé de nom. Depuis.
Ça.
Mais tu sais, justement, pour donner l'énergie, au moment où ça a changé de nom, avant que ça devienne Viva, mon tableau de bord était désastreux. C'était juste terrible, les données que j'avais là. J'ai juste le goût de t'ouvrir les veines quand tu voyais les données qui étaient là. Et depuis, ça a changé de nom. Ben là, clairement, j'ai repris le contrôle un peu de ma vie. Ben,
moi, il est arrivé un petit fait cocasse. Je suis assez volontaire. Hein? Ce que je veux dire par là, c'est que quand que je subis un événement, c'est parce que j'ai acquiescé. Puis pour l'événement, on a eu mon consentement. Mais en regardant à un moment donné mon tableau de bord me montrait les moments de déconnexion, les moments de travail individuel. C'était horrible, là. C'était horrible. Puis oui, dans mon rôle, je dois coordonner. Je dois donner des orientations de sécurité. Je dois aussi produire de la documentation, produire des livrables, des tableaux de bord, des indicateurs, etc. pour mon secteur. Et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est produit. Sans mon consentement avec l'outil, l'outil a décidé de populer mon calendrier 2 heures de travail individuel par jour pour les 12 prochains mois. Puis ça change le comportement de Teams, hein, parce qu'il m'a vraiment mis en mode zéro notification. On voit rien popper.
Do not disturb, ne pas déranger. Il te bascule voilà. en non dérangé. Oui, effectivement. Mais moi, j'utilise depuis genre juin 2020, là, pas loin, mais. Je l'utilise, mais pas.
OK. Mais écoutez, un petit truc là pour justement vous prévoir ce temps-là. C'est plate parce que vous devez faire une manœuvre dans votre calendrier, mais à certains égards, savez-vous quoi? Ça peut se faire aisément, rapidement, en créant des événements récurrents où vous êtes vraiment en mode déconnecté, pas dérangé, etc.
Oui. J'utilise ce genre de stratégie. Cependant, la plage réservée par Insight, tu n'es pas capable de le faire toi-même comme Insight le fait. La seule chose, il faut que tu copies l'événement qui voilà. t'a créé et justement, tu le recopies où tu veux justement barrer parce que ça l'avance. C'est pas juste comme une période occupée ou pas une période comme hors du bureau parce que dans les deux cas, ça va afficher ton statut puis pour l'avoir testé, quand je me mets, parce que des fois, je me mettais hors bureau justement pour geler mon temps. Puis j'ai reçu le commentaire de mon boss à ce moment-là, dit t'es en vacances? Ben non, c'est juste je veux pas te déranger. Fait que la perception des gens est influencée aussi par ce genre de choses. Fait que se mettre hors bureau, c'est pas un bon plan. Se mettre occupé, ça marche, mais ça marche moyen parce que les gens peuvent quand même te solliciter. Et le mode, justement, ben, il y a comme une couleur différente aussi dans Outlook. Qui justement qui devient un do not disturb, qui est un non dérangé, ce qui fait que tu as l'avantage d'avoir une plage où si les gens t'appellent, ben ça sonne pas.
En fait, sais-tu qu'est-ce qui va sonner? On va avoir le symbole d'un appel lorsqu'on raccroche. Puis quand on entend ce petit symbole-là, là, il y a des petites pastilles rouges qui arrivent dans les notifications qui disent ah, quelqu'un a essayé de me rejoindre. Mais c'est parfait. C'est parfait, parfait. Parce que, un, le statut, les gens sont capables d'aller voir que c'est à ne pas déranger. Deux, ça a été mis là par Viva de façon instantanée. Trois, quand j'ai parlé de ça, justement, mon gestionnaire, il est parti à rire parce qu'il s'attendait justement à ce que j'applique moi-même cette manœuvre-là parce que, oui, je suis extrêmement sollicité. Hein, des 5 rencontres de large, ça arrive encore. Surtout quand mon calendrier...
Moi, ça ne m'arrive plus. Cependant, ça, j'ai repris le contrôle par rapport à toi. Si je me regarde au début confinement, mon record, ça a été 7 de large. 7 rencontres de large. C'est juste n'importe quoi. Puis je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête des gens à ce moment-là. Puis c'est pour ça que la législation est obligée, puis QS, c'est important qu'il en parle. Les gens sont comme virés fous. T'sais, mon calendrier était clair. J'avais déjà une rencontre. Il m'en manque une par-dessus. Mais pas une. Ils m'en ont booké 6 par-dessus une rencontre qui était déjà existante. Fait que là, les gens ont comme perdu le contrôle de ça. Puis cet aspect-là est encore présent, beaucoup moins présent que ça l'a été, heureusement. Là, ça m'arrive de temps en temps de me faire booker par-dessus. mais ça devient plus l'exception que la norme. Si je dirais jusqu'à milieu 2021, c'était la norme de me faire booker, puis les gens, ils regardent même plus.
Non.
Ce qu'on avait avant le confinement, on regardait quand on planifiait une rencontre, on avait la décence de regarder la disponibilité des gens dans le calendrier. Confinement, fuck! On ne regarde plus les disponibles, on convoque quand ça nous tente. Fait que ça m'a énormément irrité. Puis bon, à ce moment-là, il y avait certains éléments, puis toi, tu le vis encore, mais j'ai amené jusqu'à refuser largement, puis ce qui a amené les gens finalement à comprendre que là...
C'est l'équivalent de se... C'est l'équivalent de se rencontrer dans une salle. On avait la décence de regarder la disponibilité des gens.
Oui.
Et puis quand il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas, on avait la décence d'écrire juste une petite note. « Hey, on a une rencontre, je pense que c'est important, blablabla, bla, bla. Pouvez-vous me faire des propositions? »
Il y avait une négociation qui se faisait. Là, on a un sujet, ça presse un peu. On s'appelait, on se parlait, on s'envoyait des courriels, justement pour arriver à un consensus. Maintenant, il n'y a plus de consensus. C'est « j'ai décidé c'était là, t'es là. » Puis c'est ça qui est terrible, parce que là, mon agenda est encore barré pour les périodes que je reçois des convocations à ces périodes-là. Je suis obligé d'écrire à des chargés de projet que leur job, c'est justement de s'assurer de trouver une plage commune pour tout le monde. Ils disent « Non, moi, je peux pas être là. Ouais, mais faut-tu absolument là? » Ben, je peux pas. J'ai déjà une autre rencontre et la tienne, malheureusement, elle est moins prioritaire que l'autre. Donc, hein, un. Puis deux, t'as pas regardé mon agenda avant de faire les affaires? T'as pas fait la job de base d'un chargé de projet?
Première affaire que je fais, en fait, ce que j'ai fait quand je suis rentré chez cet employeur-là, j'ai fait comme l'autre d'avant. Moi, mon agenda professionnel, il n'y a rien de secret là-dedans. Moi, je m'assure que les droits d'accès, tout le monde chez mon employeur peuvent le consulter. Fait qu'ils n'ont pas de raison. Quand le deuxième s'installe, il est peut-être allé trop vite. Mais à partir du 3, du 4 puis du 5e, ça commence à être insultant. Là. Je dis, tu vois bien que il voit bien dans la plage de disponibilité que ça marche pas, là. Ça marche pas, puis il y en a d'autres qui essayent de s'insérer, là. Puis, comme tu dis, tu refuses, tu reçois un call. Hey, c'est parce que moi aussi, ça m'arrive, ça. Je dis non. Je dis, premier arrivé, premier servi. Je suis maître d'œuvre. C'est moi qui gère mes priorités. C'est pas les autres qui gèrent mes priorités, là. Tu sais, il y a mon boss, puis il y a moi. Mais souvent, c'est d'autres secteurs qui essaient de gérer mes priorités. Non, ça ne marche pas de même.
Non, j'ai même eu un cas qui est quand même pas si longtemps que ça, que parce que le chargé de projet a mal géré, il a re-swingé à mon boss comme quoi je n'étais pas disponible. J'ai envoyé la file de courriel. Chose, je dis non, le dude a juste comme pas lu mes courriels expliquant les disponibilités dans lesquelles il pouvait piger. Puis j'ai donné la recette. Là. J'ai donné la recette au chargé de projet. Il l'a pas fait. Et comme j'ai refusé, il a pile poil fait dans une plage qui était non disponible que je lui avais dit. Fait que ça a fait ça. Fait qu'il s'est clairement fait reparler. Mais il a quand même essayé de parler à mon boss pour essayer de me faire plaisir. Non, mais dude, come on.
Ça, si je reviens à le sujet d'aujourd'hui, c'est que j'ai lu un article précédent. C'est drôle, c'est vraiment une journée d'intervalle. Je suis tombé sur un article intéressant sur dans quelles circonstances votre employeur peut-il communiquer avec vous en dehors des heures de travail. Puis ce sujet-là m'a intéressé, effectivement. Il y a, dépendamment du domaine pour lequel vous travaillez, il y a un critère qui s'applique absolument à tout le monde. Lorsqu'il y a mort d'homme au fil d'arrivée, l'employeur a le droit de vous appeler, peu importe le corps d'emploi où vous travaillez. S'il vous appelle, c'est parce qu'il pourrait y avoir mort d'homme. Sinon, l'article, ce qu'il présente, c'est différents modèles d'abuseurs, d'employeurs justement abuseurs, trop gourmands, et puis les différents pays qui ont commencé à avoir une réflexion très sérieuse sur « Ah, mais un instant, là, à un moment donné, c'est peut-être une politique qu'on devrait mettre en place chez l'employeur, mais en même temps, peut-être avoir un modèle de gouvernance aux normes du travail comme Québec solidaire le propose.
Ben, une norme minimale, parce que tu sais, c'est justement... tu parles de mort d'homme, mais tu sais, pour avoir eu des maints exemples dans ma vie, pour plusieurs personnes, certaines urgences leur paraissent comme mort d'homme. Et c'est peut-être ça le problème, c'est parce qu'il y a des individus qui ont de la misère à se gérer. Puis là, le problème, c'est dans le fond, on devrait leur dire, c'est la loi qu'on devrait adopter, c'est gère-toi donc. Comme adulte, gère-toi, gère tes urgences. Ton manque de planification n'est pas mon urgence. Si t'as pas planifié tes choses comme du monde, on est le 23 décembre, ben, c'est pas de ma faute. C'est toi qui as mal fait ta job de gestionnaire. T'as pas planifié. Il y a pas vraiment mort d'homme, même si dans ta tête, à toi, t'as l'impression que ça, mais finis par gère-toi. Calice.
Puis on en a off the record ici un autre. C'est un sujet où on a parlé justement de c'est quoi votre réserve émotionnelle là. C'est comment vous gérez votre intelligence émotionnelle. Comme j'expliquais à Nicolas, j'ai pris la décision à un moment donné de moi devenir gestionnaire. Ça m'intéresse peu, voire pas du tout, justement parce que j'ai une intolérance à l'incompétence émotionnelle. Gérer des émotions un lundi matin. En fait, gérer des adultes qui devraient avoir une plus grande réserve émotionnelle ou faire comme on faisait avant. Je me gère pas ce matin, j'appelle, je suis malade. Là, le télétravail fait que ces gens-là se branchent puis ils sont pas gérables. Puis on le voit de plus en plus. Moi, je trouve ça un petit peu tough. C'est vraiment pas mon domaine d'expertise.
C'est pas plus mon domaine. J'ai pas cette patience-là qui permet. J'ai eu comme un soubresaut de vouloir être gestionnaire, puis je me suis vite rappelé que j'ai pas cette patience. J'ai pas ce don-là. J'admire les gens qui sont capables de faire ce genre de choses-là. Je ne le suis pas. Je me connais. Puis c'est justement un point très important aussi dans l'ensemble de ce qu'on discute là. C'est de s'apprendre à se connaître aussi là-dedans. Puis moi, je me connais, comme toi aussi d'ailleurs, parce que la maintenance, c'est pas ma zone. Je suis pas bon. Je suis juste pas bon. Je suis bon dans beaucoup d'autres choses, mais ça, non. Puis j'accepte. Puis je suis très affirmé dans le fait que je ne suis pas bon.
Ah oui, c'est un constat que j'ai fait au travers du temps. Fait que j'ai évolué dans un domaine où je fais ce que j'ai à faire. C'est juste le degré où je suis rendu. Ça ne me tente pas d'être gestionnaire, mais je suis relativement mature. Je suis capable de dialoguer avec mes gestionnaires, créer, gérer mes priorités, mes objectifs. Puis j'en ai des collaborateurs, j'en ai. Je me réserve le privilège, par contre, d'en choisir certains avec qui j'aime et je veux travailler, mais c'est un mode pair à pair. Là. C'est pas un mode subalterne, patron ou quoi que ce soit. Là. C'est gestion du contrat, objectif, rassis. On a une adhésion, on a un échéancier, on part avec le dossier, puis ça va bien, là. Ça va bien. Puis comme je dis aux gens, si ça va pas, juste un petit clin d'œil. Rendez-vous indisponible. Hein? Faites ça tranquille chez vous. S'il n'y a pas mort d'homme, si on reprendra ce temps-là un petit peu plus tard dans la semaine ou la semaine suivante, mais vous avez le droit à un moment donné d'avoir votre moment d'intimité pour décanter aussi là, quand les affaires ne vont pas. Là.
On est des humains. Faut se parler. Il faut arrimer les choses. Puis c'est un peu ça, puis pour revenir sur le droit à la déconnexion, c'est un peu cet endroit-là où on a peut-être un peu oublié justement qu'il faut que ce dialogue-là se fasse entre l'employé et l'employeur, entre le gestionnaire et l'employé. Justement, c'est ce moment-là, justement, qu'on tire un bénéfice parce qu'on n'est quand même pas des machines. Donc, de ça. Puis je pense que les employés, pour beaucoup, se sentent impuissants. Puis c'est pour ça qu'on est dans cette situation-là. On est peut-être chanceux ou on est peut-être habilité différemment sur le fait qu'on est capable de gérer de façon plus mature ou plus habile cette relation-là avec notre gestionnaire. Mais c'est quand même pas simple, c'est quand même pas complexe, c'est pas à la portée de tout le monde. Fait que c'est justement, puis des gens qui sont plus vulnérables des moments. Mais le moment, justement, puis on vient, si tu as besoin de décanter, c'est même essentiel. Moi, je parlais de moment pour justement fermenter mes idées, pour donner un très bon alcool. C'est très important. mais il y a des gens aussi, on a besoin, on a des moments de frustration, on a des moments les plus difficiles au bureau, on a des moments, des fois, des éléments ou des situations qui ne vont pas dans le sens pour lequel on veut aller. Ça nous arrive tous, ça. On n'est pas dans un contexte des unicorns, j'allais très en anglais, des licornes, des arcs-en-ciel.
Des aussi lutins.
Et des lutins, c'est pas toujours comme ça. Des fois, c'est difficile, des fois, c'est plus ardu. C'est, puis même si on est rendu à un stade professionnel qui nous plus de liberté, c'est quand même plus difficile, mais il demeure que ces moments-là sont essentiels, justement, de prendre un pas de recul qui nous aide à être donner une réponse moins émotionnelle dans un contexte où on ne devrait pas mettre des émotions. Justement, de nous laisser le temps de passer à travers, de nous laisser aller plus loin.
Puis tu vois, peut-être au niveau de la modernisation, au niveau des normes du travail, c'est de lancer peut-être les bases parce que je prends par exemple pour une petite organisation, c'est facile d'arriver à un consensus puis d'arriver à un modèle puis de bien l'appliquer puis d'avoir l'adhésion des gens. Mais je prends des grosses organisations où d'un secteur à l'autre, il y a des grosses organisations ou des secteurs, il y en a des centaines et des centaines. C'est que là, chaque gestionnaire va mettre ses propres assises. On va se retrouver avec un modèle qui est pas standard, qui peut rentrer en conflit avec la collaboration avec d'autres secteurs, etc. Mais là, si on a le même modèle, au moins nos assises, nos bases, l'employeur ensuite de ça peut bonifier selon le domaine d'activité, venir bonifier avec aussi ses éléments, mais tout en restant pas trop gourmand, honnête, puis prêt à respecter justement ses engagements, mais aller chercher l'adhésion puis avoir le contrat avec les employés là, sur le modèle à appliquer. Là.
Tout à fait. Et après plus de 30 minutes qu'on parle de ce genre de choses-là, puis j'imagine que plusieurs, et si vous avez resté jusqu'à ce moment-là du podcast, qu'est-ce que ça a en lien avec la sécurité ou la cybersécurité? Le point, c'est que ce moment-là, en cybersécurité, un des éléments qu'on souvent qu'on chiale. Certains professionnels vont chialer comme l'humain étant le maillon le plus faible, blablabla. En quel je ne suis pas d'accord dans la façon que c'est énoncé, c'est que si on a des employés qu'on utilise de façon exagérée, vont devenir justement des maillons faibles parce que ceux-ci n'ont pas le temps d'avoir l'espace cognitif reposé pour justement voir le phishing, justement de voir les manœuvres d'attaque, de voir justement les choses. Fait que dans un contexte de cybersécurité, le fait d'avoir des employés non reposés, non ouverts, donc qu'on a abusé, qui ont la langue à terre, vont être des plus faciles justement à nous aller les abuser, à tomber dans des pièges classiques, à tomber sur les appels qu'on a dans le phishing, dans tomber ce genre de choses-là. Fait qu'il y a un lien direct avec ce genre d'espace-là cognitif qui est en place, qu'on doit laisser les gens prendre le pas de recul parce qu'on est toujours sous pression, on est toujours en train de se faire appeler, on n'a pas cet espace-là. Puis justement, comme expert en cyber, on a dit « Ah, gang de pas bon, gang d'humains, machin ». Ouais, mais l'organisation aussi est responsable d'avoir peut-être usé les employés, d'avoir poussé trop loin et de ne plus leur donner l'espace justement de prendre le pas de recul, le repos suffisant pour être capable de déceler plus facilement toutes les manœuvres, surtout par courriel. Puis attendez-vous pas qu'en 2023, il va y avoir une diminution des courriels ou du rançon logiciel, des choses comme ça. C'est une méthode qui marche et tant qu'elle va bien marcher et tant qu'on va avoir des gens qui vont tomber dans le piège, ben ils vont continuer. Fait que si on est capable en tant qu'employeur de justement favoriser que nos employés aient le pas de recul, ça exclut le fait qu'il faut qu'on les forme, qu'on les aide à déceler, mais au-delà du fait de les aider à déceler, si on les pousse à bout, ils ne verront plus rien, puis ils vont ouvrir n'importe quel courriel, puis ils vont tomber dans n'importe quel piège parce que ils sont trop fatigués pour réussir à comprendre ce qui se passe. Fait qu'on est déjà dans un contexte où c'est très important, ça, humainement, mais au niveau cybersécurité, ça a aussi une énorme valeur, puis il ne faut pas le négliger.
Le repos du guerrier prend tout son sens ici, hein? On aurait beau dire, wow. OK, nos êtres humains sont plus ou moins reposés. On va automatiser, on va s'acheter des outils. Ouais, mais ça change pas. Quand l'outil va popper, lui, il va popper à n'importe quelle heure de la journée. Je dis, on n'est pas plus avancé. Je dis, on va juste on va juste pouvoir avoir une augmentation de la charge de travail, ça finira plus. Je ne veux pas dire que c'est mal d'installer des outils ou d'automatiser, mais Nicolas l'a dit, hey, c'est l'humain qui est en arrière, qui fait vivre l'outil, qui gère ce que l'outil va faire popper, puis c'est l'entité qui a adhéré justement à l'installation de ces outils-là, mais il faut quand même encadrer une approche puis une bonne pratique de travail pour une saine gestion, parce que l'attaquant, lui, il travaille 24/7. Il dit, c'est que rendu là...
Il est partout dans le monde.
Est-ce que ça prend trois quarts de travail? Probablement, oui. Probablement que dans certaines circonstances, si vous êtes très exposé, si vous avez beaucoup d'argent, c'est fort possible, là.
Oui, parce que c'est justement quand on est trop fatigué, on a été poussé trop à bout au niveau de l'emploi, on va tendance à être beaucoup plus négligent, beaucoup moins éveillé à ce qui se passe. Et justement, c'est là où on va être beaucoup plus facile à tomber dans les pièges de standard. Et c'est pas pour rien que les malveillants vont justement viser des zones où il y a beaucoup d'émotions au niveau social ou au niveau des entreprises. C'est justement, ils s'attendent que les employés arrivent à la langue à terre à Noël. Fait que c'est pour ça que le spam, par hasard, augmente justement dans une zone où les gens sont beaucoup plus vulnérables parce que justement, sont beaucoup plus épuisés, on les a abusés au niveau professionnel. Donc, ils sont beaucoup moins vigilants à des choses qui normalement leur auraient éveillé une forme d'alerte, une forme de choses. Donc, on est vraiment dans un contexte où ça vient nuire à l'état de sécurité de choses. Puis en 2022 et 2023, ça ne sera pas mieux. On ne peut plus vivre sans tous ces éléments-là. Le télétravail nous a clairement montré que maintenant, le réseau de l'entreprise s'étend jusqu'à nos résidences. On travaille de partout. On est nomade, on est différent, on est des éléments qui collaborent à l'entreprise, mais peu importe où on est situé. Donc, il faut ramener ce contexte-là où c'est tous ces volets-là unitaires, ces petits atomes-là qui forment la grande entreprise sont importants et on doit leur faire attention. Puis, je pense que cette loi-là ou cette réflexion de QS dans ce cas-ci va nous amener à un élément de sécurité supérieur parce que justement, les gens vont être moins tentés ou moins attirés à tomber dans un piège.
Ah oui, oh oui. Puis écoute, ça va. Une fois que ça sera modernisé, ça sera aux entités là, à dire bon, est-ce que c'est. Dans plusieurs cas, là, je vous le dis, là, ça va être un copier-coller de ce que vous avez déjà mis probablement en place. Puis dans certains autres cas, ça va dire OK, on vient de m'imposer des limites. Faut que je sois flexible et que j'apprenne à cadrer ça maintenant dans mon entité, bonifier aux besoins. Tu sais, je pense qu'on est rendu là, là.
On est très rendu là. Puis sur ça, ça fait finalement sa boucle. On a passé moins de temps finalement sur le volet cyber, mais quand même le préambule était nécessaire pour nous amener à la compréhension du danger qui était au niveau cyber associé à cette exagération-là. Sur ce, bonne année. Parce qu'on va, au moment où vous allez écouter ça, on va avoir souligné d'année. Puis 2023, ben, je pense que ça ne sera pas mieux que 2022. Je pense qu'il va y avoir autant de défis en cybersécurité.
Oui, puis bonne année à tout le monde. Merci de nous écouter. Envoyez-nous des commentaires si ça vous tente. On est bien ouverts. Puis petit clin d'œil, LastPass, il y a eu un update cette semaine qu'on poursuivra en 2023. Là. Je vais aller chercher le détail. C'est pas chic, mais ça se précise. Le format de détail est intéressant, mais on s'en parlera en 2023.
Quelque chose à explorer. Bonne année.
Bonne année.